Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, Armand Dubois au micro, bienvenue à cette émission. Au gré du temps, notre invité a laissé couler l'encre de sa plume et a installé ses personnages dans notre imaginaire. Que ce soit M. Émile de son roman Le Matou, Juliette Pomerleau ou Mélanie Gervais, ses personnalités fictives, parce qu'il a su leur donner presque une vraie vie, habitent dorénavant notre espace collectif et romanesque. Avec grand plaisir, j'accueille pour vous aujourd'hui le romancier Yves Beauchemin. Bonjour, M. Beauchemin.
Bonjour.
Romancier, mais ça n'a pas toujours été votre métier.
Ah, j'en ai fait quand même quelques-uns. J'ai d'abord été professeur pendant un an et demi à peu près.
Parce qu'il faut dire que vous êtes un licencié des lettres de l'Université de Montréal.
J'ai obtenu une licence en lettres, ce qui ne veut plus dire grand-chose, je crois, maintenant. Je pense que le terme n'existe plus, en 65. Et c'était en français histoire de l'art. Et puis... Mon premier emploi, je l'ai refusé, il m'avait été dégoté par le patron de la Faculté des arts de l'Université de Montréal. Mon Dieu, je cherche son nom, il est décédé il y a bien longtemps. C'était un bénévole pour l'Université de Montréal, bénévole. On ne parle pas des salaires qui se payent actuellement à la haute direction de l'université. C'est un banquier, je pense, d'origine juive et autrichienne qui était vraiment passionné de la culture et, entre autres, de la peinture. Ça va me revenir, mon Dieu, en tout cas. Lorsque j'ai terminé en histoire de l'art, il m'avait, alors que je n'ai aucun talent comme dessinateur ni quoi que ce soit, il avait trouvé que les analyses que j'avais faites de certains tableaux dans un examen étaient tellement extraordinaires qu'il m'avait il avait approché le Collège Stanislas pour que j'enseigne l'histoire de l'art à des jeunes de 13-14 ans.
Ce que vous n'avez jamais fait.
Là, je me suis imaginé une salle avec des élèves de 13-14 ans dans l'obscurité et puis moi en train de montrer des diapositives de Rembrandt et compagnie. Et je suis devenu blanc comme neige et j'ai refusé. C'était à l'époque, il faut dire, on était en 65, comme je vous disais. Et on était parmi les premières générations qui débarquait en masse sur le marché du travail muni de diplômes. Alors, on avait l'embarras du choix, dans le fond.
Mais cependant, il a peut-être allumé la flamme en vous disant que vos descriptions de tableaux étaient à ce point bien faites, bien écrites, que cela vous donnera peut-être l'idée un jour d'écrire et d'utiliser votre plume.
Peut-être. C'est une autre chose aussi qui l'avait bien frappé, parce que c'était un mélomane, même il était pianiste. C'était vraiment un homme de la grande époque, là. C'est-à-dire...
Un maître.
Un bourgeois... qui était dans les affaires, mais qui était extrêmement cultivé et qui était pianiste et qui s'amusait parfois à inviter des amis puis faisait de la musique de chambre. Il invitait un violoniste ou deux et puis un violoncelliste puis il jouait des quatuors d'Haydn, de Dvorak et tout ça. Et moi, j'avais fait une remarque par un cours sur Bruckner. Imaginez, en 1964-65, Bruckner... était beaucoup moins connu que maintenant. Oui. Et puis, je pense qu'il n'avait pas entendu ce nom-là dans la bouche d'un Québécois depuis quelque temps. Il avait été très frappé que je connaisse, puis que même que j'aime Bruckner et tout ça. Bon. Alors, ça avait donné ça, et puis ça avait été pour lui une grande déception. Alors, finalement, j'étais allé enseigner la littérature étrangère à Québec, au collège Garneau, qui donnait des cours de rattrapage pour ceux qui quittaient le cours secondaire pour aller au cours classique. C'est vous dire, comme on est loin dans le temps, alors j'ai enseigné là un an, puis finalement je me suis aperçu que ce métier-là, ça me prenait trop d'énergie, et puis j'écrivais, et puis de performer à 8 heures le matin, là, devant des classes. Enfin, c'est pas parce que j'ai connu des moments particulièrement difficiles, mais c'est que le métier ne m'intéressait pas.
Vous avez parlé de Bruckner, donc on parle de musique. Je dois dire que tout le contenu musical de cette émission sera un contenu instrumental. Vous aimez beaucoup la musique classique. Vous nous avez, et vous avez fait découvrir à plusieurs Martinou, par exemple, à travers ce roman célèbre. Vous aimez, c'est un auteur que vous avez découvert par hasard alors que vous étiez à Radio-Québec, je crois.
Oui, c'est ça. Oui, ben, j'étais en charge de la discothèque de Radio-Québec. C'était le temps du micro-sillon, encore. Et j'achetais les disques et je faisais de l'illustration musicale, des choix de thèmes, tout ça. Et puis, à un moment donné, je prends un disque étiquette Supraphone. C'était un disque tchécoslovaque. À l'époque, c'était tchécoslovaque parce que les deux pays étaient encore unis. Ils n'avaient pas eu la bonne idée de se séparer pour suivre chacun leur destin. Petit message subliminal. Alors, c'est là, d'abord le dessin de la pochette qui m'a attiré. Boguslav Martinou, ça me disait vraiment rien. On m'aurait dit canard à l'eau chaude, ça aurait été pareil. Alors, il y avait d'un côté un concerto de violon, puis de l'autre un concerto de piano.
Alors, on va écouter La Colombine qui danse. C'est une pièce qui a été écrite en 1914 pour théâtre de marionnettes. Et c'est Pavel Kaspar qui est au piano. Une pièce, évidemment, de Boguslav Martinou. Vient d'entendre Boguslav Martinou. C'est un compositeur tchèque qui est né le 8 décembre 1890 à Polička. C'est une ville située au cœur de l'Europe en Moravie. Et pour nous faire découvrir cet auteur et ce compositeur, on a avec nous aujourd'hui le romancier Yves Beauchemin. C'est toujours agréable de découvrir des pièces musicales qui ne sont pas aussi familières que Beethoven, Mozart et ceux qu'on entend souvent ad nauseam. D'autant qu'on entend dans ce qu'on vient d'entendre au piano, on peut percevoir presque l'âme de ce pays.
Oui, moi, ce qui m'avait frappé instinctivement, parce que je n'ai aucune formation musicale, je lis très laborieusement la musique et je ne joue d'aucun instrument, donc je suis vraiment le cas type du mélomane. Le premier morceau que j'avais écouté de Martinou, c'est un concerto pour piano, c'est son deuxième. Et ce qui m'avait frappé, deux choses. La facture moderne. On ne pouvait pas, penser que ça avait été écrit au 19e siècle. C'était franchement moderne à cause de l'harmonie, une certaine dissonance et tout ça, puis l'atmosphère générale, l'orchestration. C'était moderne, mais absolument accessible.
Tout à fait.
Absolument accessible. Et puis, très beau. Alors, j'ai eu la piqûre. Ça n'arrive pas à tous les disques qu'on écoute. Et puis, j'ai changé le micro-sillon de côté là, pour écouter le concerto pour violon. Et ça a été la même chose. Alors, j'ai dit, il y a quelqu'un là, qui est intéressant. Et je me suis mis collectionneur dans l'âme. Je me suis mis à collectionner ces disques. Et je suis sans doute la personne ici dans la région montréalaise qui possède le plus de Martineau. J'en suis certain.
Et ce qui est étrange, on raconte que c'était un enfant prodige. Qui est entré par la suite à l'âge de 15 ou 16 ans au conservatoire, mais ça a été un passage désastreux, il n'y est resté que 2 ans.
Il s'est fait recaler ou renvoyer pour indiscipline.
Voilà, il a échoué les examens, il était indiscipliné, comme vous le dites. Cependant, il a continué sa formation par lui-même, un autodidacte, et finalement, il est devenu violoniste pour l'orchestre philharmonique de son pays, et vous me disiez vous-même qu'il a été un compositeur très prolifique.
Oui, dans les années 30, au début des années 30 ou à la fin des années 20, il a immigré en France où il est devenu l'élève d'Albert Roussel, un autre grand compositeur du 20e siècle, un compositeur français de très grande envergure. Et il composait d'une façon compulsive. En fait, il ne pouvait pas s'arrêter.
Revenons à Yves Beauchemin. Donc, après votre passage à Québec, vous enseignez un an. Qu'est-ce qui vous ouvre la voie par la suite?
Ensuite, j'ai décidé de revenir à Montréal en 66. Et je suis parti au mois d'août sans avoir d'emploi en vue. Et je me suis retrouvé, c'était le bon temps, je vous dis, pour les bohèmes. Et je me suis retrouvé professeur de français normatif à l'École des hautes études commerciales.
Oh là là!
Et... Mon chef de département, c'était Raymond Barbeau, le fondateur du mouvement La Laurentie, ou quelque chose comme ça, le mouvement Laurentie, ou Laurentien, je ne sais pas, qui est décédé maintenant, bien sûr. Et au bout de 3 mois, le jeune homme de 25 ans a trouvé qu'enseigner à des amphithéâtres de 250 futurs comptables qui avaient du retard à rattraper en français, c'était vraiment pas très, très amusant. Non pas que encore là, que j'ai eu des problèmes de discipline. Non, je les ai tués dans l'œuf, les problèmes de discipline, dès le premier cours.
Comment donc?
Au premier cours, dans la première rangée, il y a un élève qui a... Dès le début du cours, qui a ouvert la presse devant moi. Et dans ce temps-là, le format de la presse était très large et très haut. Et là, j'ai vu que c'était lui ou moi. Parce que si la classe mettait à rire de moi, j'étais fait. Et il fallait que la classe rit de lui. Je me rappelle pas ce que j'ai dit, mais la classe a éclaté de rire, puis il a rougi, puis il a fermé son journal, je me rappelle. Et j'ai pu donner le cours, mais c'était
pas... Vous avez imposé votre autorité dès le départ.
Par l'humour, je pense, oui, par l'humour. Mais c'était pas particulièrement agréable, ça. Et ça veut dire que j'étais plus, sans le savoir, plus écrivain que professeur. C'est un métier que j'admire beaucoup, remarquez, parce que ça demande énormément de patience et d'énergie. Et puis, ça demande aussi une grande vivacité intellectuelle quand on veut le faire d'une façon sérieuse.
On est au milieu des années 60, donc, et il y a un auteur québécois qui était très populaire par ses pièces de théâtre, par ses scénettes aussi qui étaient mises à la télévision, petit écran, Marcel Dubé. Mm-hmm. Vous avez probablement été de ceux qui ont suivi le monde de Marcel Dubé, Florence, entre autres.
Oui, bien sûr.
Et ça a marqué toute une époque, ça.
Oui, bien sûr.
On va se rappeler un beau souvenir en écoutant le thème de cette émission qui a été composé par Claude Léveillé. Et la voix que l'on entend sur ce thème, c'est celle de Nicole Perrier. Marcel Dubé, évidemment, ça a été quelqu'un, probablement pour le jeune homme que vous étiez, marquant comme il l'a été pour de nombreux Québécois, Yves Beauchemin.
Ben oui, c'était l'époque. Moi, je me rappelle surtout Dubé, de ses pièces montées au Théâtre du Nouveau Monde, qui s'appelait... Est-ce que ça s'appelait la Comédie canadienne ou le Théâtre du Nouveau Monde à l'époque, là?
Zone,
et puis Florence, et puis Le Temps des Lilas, et puis beaucoup d'autres comme ça. Il était très prolifique, lui aussi, d'ailleurs. J'ai eu la chance de le rencontrer une ou deux fois, et de souper une fois avec lui, en compagnie d'autres personnes. Mais c'était le Dubé, vraiment un Dubé très assagi à ce moment-là. Qui évidemment demeure un homme remarquable, très spirituel, très sensible.
Il a été aussi au cœur de cette mouvance que vivait le Québec à cette époque, parce que, bon, nous étions en pleine révolution tranquille, et les thèmes abordés, vous évoquiez Florence ou Le Temps des Lilas, c'était beaucoup la contestation à plusieurs niveaux de la famille, des cadres très rigoureux que pouvait avoir l'Église, que pouvaient avoir les institutions en général. Marcel Dubé s'est fait le porte-voix de cette contestation.
Oui, il était un des porte-parole de la Révolution tranquille. On a peine à imaginer ce que pouvait être le contexte social à l'époque, là. Mais oui, effectivement, la présence de l'Église, de la morale catholique, était perçue par beaucoup de gens comme très pesante et contraignante. Et puis, il y avait un message politique aussi. C'était le Québec qui... On est toujours porté à croire que c'est notre génération qui a créé l'univers. C'est bien sûr qu'il y avait eu d'autres prises de conscience dans le passé par les générations précédentes, mais on n'a pas choisi 1960 comme... Et on n'a pas donné à cette période-là le nom de Révolution tranquille pour rien. Il y a eu vraiment de profonds changements économiques, sociaux et politiques qui se sont mis en branle, mais qui, hélas, n'ont pas encore réussi à atteindre, dans le fond, leur but logique.
Il y avait tout de même cette masse de jeunes, aussi bien au Québec et partout dans le monde occidental, qui poussaient, qui faisaient pression pour qu'il y ait cette transformation sociale.
Oui, et puis l'âge moyen de la population était beaucoup plus bas que maintenant. On avait une société, à cause de la natalité, qui était encore assez élevée. C'est à partir de 1970, très exactement, que le taux de natalité tombe en bas du 2,1 et que la population se met à vieillir et à décroître. Et si maintenant, si on n'avait pas l'apport de l'immigration, le Québec serait vraiment une société qui serait comme le Japon, déclinante démographiquement.
Et où se situait Yves Beauchemin à cette époque? Est-ce qu'il était dans cette mouvance de contestation, en quête d'un meilleur avenir, d'un monde transformé?
Ben, vous savez, on ne vit pas dans un manuel d'histoire, puis on ne dit pas « Ah tiens, là, on vient de changer de chapitre, et puis là, on est rendu... »
Mais avec le recul, on peut faire parfois...
Oui, bien sûr. Je vivais comme tout le monde. Je suivais le courant du temps et puis je me préparais à ma carrière d'écrivain. J'étais en 70, j'étais en train d'écrire L'Enfer roi pays, mon premier roman dont j'ai commencé les rédactions en 1969. Et j'étais à Radio-Québec, qui maintenant s'appelle Télé-Québec, comme chacun sait.
Oui.
Et
Et là, vous étiez directeur musical.
Oui, et puis j'étais également membre du... comment ça s'appelait l'ancêtre du Parti québécois, là, du MS...
Aérien?
Non, MSA.
MSA, le Mouvement Souveraineté Association.
Souveraineté Association, oui. De René Lévesque. Non, j'ai jamais...
Qui n'était pas un parti politique, mais qui
non.
était un mouvement.
C'est ça. Ben, comme l'Aérien n'a jamais été un parti politique non plus. Et le MSA, qui était la cellule qui a donné naissance au Parti québécois. J'étais membre de ça, je lisais Le Devoir, je lisais la presse, je discutais avec les gens, je sortais avec les filles, je gagnais ma vie, et puis je lisais, enfin je vivais, et puis on échangeait beaucoup d'idées, puis c'est à ce moment-là que je suis devenu ami avec un homme qui est encore mon ami, Jean Dorion, qui était président de la Société Saint-Jean-Baptiste, délégué du Québec à Tokyo. On ne savait pas à ce moment-là que moi, je deviendrais un écrivain connu, puis que lui ferait une carrière. Puis on s'est rencontrés comme ça, et puis on partageait pas mal d'idées. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait.
Jean Dorion, qui a une grande ouverture sur le monde, on dit qu'il parle couramment le japonais, je crois.
Oui, mais il fait mieux que ça. Il a marié une japonaise. Ah, bon. Et il y a 5 enfants d'elle, de 5 Eurasiens absolument magnifiques. Et oui, bien, je pense que ce matin, il suivait son cours de japonais, son premier de la semaine. Là, c'est-à-dire que ça fait des années qu'il étudie ça, mais là, depuis qu'il y a plus de temps libre, à la suite du 2 mai, là, il suit ça d'une façon vraiment plus régulière.
Monsieur Beauchemin, on va passer du Japon à la Russie. Je sais que vous aimez nous faire découvrir aussi des œuvres qui ne sont pas très entendues. J'ai une belle découverte aussi pour vous. Il s'agit d'Alexander Taneïev. J'espère avoir une bonne prononciation.
Ah, oui, vous l'avez.
Qui est un compositeur russe de l'ère romantique et nationaliste, dit-on. Très peu connu à l'extérieur de la Russie, tout comme son cousin Sergueï, que certains surnomment le Brahms russe. Mmh. Il a écrit 2 opéras, 3 symphonies, quelques pièces pour orchestre, mais beaucoup de pièces de musique de chambre. Mais si vous voulez bien, revenons aux symphonies, peu nombreuses, mais d'une qualité d'écriture empreinte de l'âme russe. Du compositeur Alexander Taneïev, voici un extrait du premier mouvement, marqué Andante, de la symphonie numéro 2 en si bémol majeur, composé en 1902, et c'est Werner Andreas Albert qui dirige le Philharmonia hongarien.